Go, go, la review d'Ipress JB.
Toute l'actu du jeu vidéo chaque matin dans tes oreilles. C'est pas sexy choucroute ça?
Y'a pas mieux pour frétiller comme des petites truites.
Comme des petites truites. La revue de presse JV.
Maison de qualité depuis 2017. Et ouais.
Plus stimulant que ton café et meilleur pour la santé.
Bonjour à toutes et tous, nous sommes le mercredi 6 février 2019, c'est la revue de presse JV, votre podcast quotidien qui vous parle de jeux vidéo chaque matin, et le mercredi, vous le savez, c'est 100% Japon. Avant d'attaquer, je tenais à m'excuser vraiment de l'absence de l'émission hier. On a eu avec Natacha une bonne grosse journée de... une journée pas cool, voilà, pour rester correct. Et donc, impossibilité pour nous de réaliser l'émission dans les meilleures conditions qui soient. Donc, exit la rubrique indé du mardi, exit les news d'hier, et Dieu sait qu'il y en avait. Je vous avais notamment préparé un sujet sur Apex Legends, hein, le Battle Royale du studio Respawn, hein, dans l'univers de Titanfall, un free-to-play qui a fait grand bruit, enfin que l'annonce... L'annonce a fait grand bruit, bien sûr. Donc tout ceci, on y reviendra, hein, bien sûr, dans les éditions prochaines. Ce que je vous propose sans plus tarder, c'est d'attaquer voilà, dans la folie des résultats de certains acteurs, hein, des poids lourds japonais, qui peuvent se féliciter d'être en grande forme. Allez, c'est parti. Capcom double ses bénéfices avant Resident Evil 2 Remake et Devil May Cry 5. C'est GameCult qui nous parle de cela, et plus exactement le newser Shikeshok Jarod. Il nous dit que les résultats de Capcom aux trois quarts de l'année fiscale confirment l'excellente tenue de l'éditeur, qui annonce un bénéfice record pour la période allant d'avril à décembre 2018. Et ce, avant même donc les sorties d'Hero 2 Remake et de DMC 5, l'éditeur avait multiplié ses profits par 2 et augmenté son chiffre d'affaires de 28%. Monster Hunter World, nous dit-on, y est encore pour beaucoup dans ses excellents résultats. En effet, la sortie du portage PC en août dernier a permis de prolonger efficacement la dynamique de vente d'un titre qui revendique désormais plus de 11 millions d'exemplaires distribués, et ce, toutes plateformes confondues, consolidant par là même la position de record historique pour Capcom. L'éditeur, donc, semble en outre avoir fixé des objectifs très raisonnables pour des titres comme Monster Hunter Generation Ultimate, la compilation du 30e anniversaire de Street Fighter, Megaman 11 et Megaman X Legacy Collection, puisque l'éditeur japonais se dit satisfait des résultats de tous ses produits. Il en faudrait de toute façon beaucoup plus pour saper la bonne humeur de la direction, nous dit GameCult. Jamais Capcom n'avait affiché un tel bénéfice à ce stade d'un exercice fiscal. Et ce, malgré une perte opérationnelle de 5 millions d'euros dans le très fébrile segment Pachinko Punchy Slot. Et quand on sait, nous dit GameCult, et ça, effectivement, c'est énorme, que Resident Evil 2 Remake est d'ores et déjà un carton avec plus de 3 millions de copies distribuées au lancement, un meilleur démarrage que le 7ème épisode, Capcom semble bien positionné pour atteindre son objectif annuel en manière de chiffre d'affaires et de bénéfices nets. Alors, on nous dit par contre, toujours rien à signaler du côté des jeux mobiles, domaine dans lequel Capcom ne parvient pas à se faire une place. Conséquence toujours aussi déstabilisante pour un joueur console, la branche jeux vidéo de Konami, avec ses jeux de sport bien installés sur smartphone, affiche un chiffre d'affaires et un bénéfice net encore deux fois plus élevé que Capcom. Et pourtant, on vient de le rappeler à l'instant, Capcom effectue un exercice record. Donc ce sont des bonnes nouvelles, et c'est tant mieux, j'ai envie de vous dire. Je ne sais pas vous, mais moi le DMC 5, je l'attends, et après la claquade monumentale que j'ai reçue dans le museau par le remake de Resident Evil 2, je me dis qu'effectivement Capcom est en très très grande forme, et ça fait plaisir, puisque Capcom a toujours été l'un de mes éditeurs préférés. Et il n'y a pas que Capcom qui est heureux, oui, puisque vraiment le Japon est en grande forme en ce moment, il faut le dire. Autre carton, celui de Kingdom Hearts 3. Effectivement, Square Enix est content, même s'il faut préciser et nuancer que sur la période courant d'avril à décembre 2018, Square Enix exhibe un bilan quand même en baisse par rapport à l'année précédente. Faut dire que l'année dernière, Dragon Quest 11, Nier Automata et le FF12, The Zodiac Age, le remaster sur PS4, avaient quand même bien aidé. Effectivement, là pour le dernier exercice, Shadow of the Tomb Raider et Just Cause 4 ont déçu ainsi qu'à nouveau, et ça c'est une marotte, j'ai l'impression là pour les éditeurs japonais, ainsi que la division mobile. Mais donc Sora et ses amis sont là pour redonner le sourire aux actionnaires, puisqu'une semaine seulement après sa sortie internationale, le total de copies distribuées et de ventes en téléchargement de Kingdom Hearts 3 a dépassé les 5 millions. C'est la meilleure performance pour un Kingdom Hearts et l'une des meilleures pour Square Enix. Celui qui sabre également le champagne, c'est Koei Tecmo, car Nioh a été tout simplement son plus gros succès international. Nioh s'est écoulé effectivement à 2,5 millions d'unités à travers la planète. L'action RPG hardcore, faut vraiment s'accrocher, est sorti, je vous le rappelle, sur PlayStation 4 le 8 février 2017, donc ça fait quasiment un an jour pour jour. Puis sur PC en novembre de la même année. Je rappelle que Nioh 2 a été annoncé durant l'E3 2018 sur PlayStation 4, toujours, mais toujours pas de date à se mettre sur la queue-note pour l'instant. N'oublions pas également Ace Combat 7, qui fait vraiment une belle performance au Japon et qui est carrément dans le top 4 des meilleurs démarrages de cette saga avec des gros navions. Et ça, c'est quand même une sacrée surprise. Donc, Japon en forme. Même si Sega l'est un peu moins, et oui, hélas, la firme s'attend à une perte nette de 12 millions d'euros à la clôture de l'exercice, donc je le rappelle, ça c'est le 31 mars prochain. La cause, le secteur mobile qui là impacte beaucoup plus Sega que les autres, une grosse chute lors du dernier trimestre de l'année 2018, avec une perte estimée à 48,6 millions d'euros. Puyo Puyo Quest ne rapporte plus grand-chose, et les dernières sorties mobiles ne se distinguent pas assez pour apporter les pépettes dont ont besoin nos amis de Sega Samy. Non, ça va pas très fort. Heureusement, le secteur jeux PC et console s'en sort tout de même quand même bien mieux, avec 18,5 millions de jeux distribués entre avril et décembre 2018, contre seulement, entre guillemets, 14,2 millions en 2017. On va terminer cette émission en parlant de Grand Blue Fantasy Relink. Nous en avons parlé maintes fois dans cette émission, basée sur la célèbre franchise issue du mobile de Sea Games, Grand Blue Fantasy. Cette mouture Relink est un action RPG développé par Platinum Games, mais développé jusqu'à maintenant. Puisque le studio, spécialisé dans les jeux d'action complètement dingo et réglé au poil de fionfion, a annoncé qu'elle avait terminé sa partie du contrat sur le projet. C'est le site Siliconera qui nous parle de ça. Alors, je vous donne le message officiel de Platinum Games. Le développement se poursuivra, mais sera pris en charge par l'équipe de développement interne de Sea Games. Nous tenons à remercier tous ceux qui ont manifesté de l'intérêt pour le projet, et nous demandons que le même soutien soit apporté donc pour Grand Blue Fantasy Relink et à l'équipe qui s'en charge désormais au fur et à mesure que la production avance. Message de Sea Games. Donc éditeur et développeur de jeux vidéo basé à Tokyo, Sea Games s'est récemment engagé dans le co-développement du prochain jeu console Grand Blue Fantasy Relink avec l'estimé développeur Platinum Games. À l'avenir, Sea Games gérera 100% du développement en interne. Voilà, je rappelle que c'est prévu sur PlayStation 4, bien sûr, et qu'on n'a toujours pas de date là-dessus. Le jeu avait une plutôt bonne tronche, je trouve, vraiment. Alors, vrai contrat ou peut-être petite embrouille, je ne sais pas. Pour l'instant, on va croire la version officielle, c'est-à-dire que la partie du contrat a été remplie par Platinum Games. Le jeu a toujours vraiment une bonne tête, comme je le disais, donc je le surveille vraiment du coin de l'œil, surtout parce que je suis fan de Platinum Games et de leur production, plus que de Grand Blue Fantasy que je connais un peu moins, forcément. En tout cas, voilà, Platinum n'a plus les mains dans le cambouis. Ils ont effectué ce qu'ils devaient faire, contractuellement parlant. La suite, j'ai envie de vous dire au prochain épisode, n'est-ce pas? Le temps maintenant est venu pour moi de vous remercier d'avoir suivi cette édition, d'encore m'excuser pour l'absence d'hier. Merci à Natacha pour le montage. Et puis, on se retrouve très très vite demain, bien sûr, même heure, même chaîne, même flux, vous ne le savez que trop bien. Bonne journée, panache et robustesse, et à très très vite. Bye bye.